Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aujourd'hui au rendez-vous de la librairie des étudiants. Pour cette nouvelle chronique, nous ouvrons un roman en compagnie de son auteur. Créatine est paru dans nos librairies indépendantes en janvier 2024 aux éditions Gallimard dans la collection Scribe et il est l'un des succès de mon invité du jour. Vous le connaissez peut-être, poète, avec son recueil Vacances paru en 2022 et couronné par le prestigieux prix Apollinaire Découverte il y a 2 ans. Bonjour Victor Malzac.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bah oui, très bien, merci.
Je suis très heureux de pouvoir vous recevoir au micro de la librairie des étudiants.
Bah, ça me fait plaisir, je suis content d'être là. Merci d'être venu jusqu'à moi.
Bah, je vous en prie. On va parler ensemble donc, de votre premier roman, Créatine. Ouais. Voici l'histoire d'un jeune homme, un adolescent scolarisé au lycée. Il n'est ni bon ni mauvais, aucune discipline ne l'intéresse vraiment. Que ce soit au lycée ou dans sa vie, rien ne le fait vraiment vibrer. Il vit simplement entre un père lourd et une mère qu'on peut dire effacée. Mmh. On ressent rapidement que votre personnage a un vide à combler. Il mange beaucoup, il veut aimer, mais il reste timide. Il fait des choses jusqu'à l'épuisement, même jusqu'à ce que ça casse, voire jusqu'à ce que ça meure. On peut prendre un exemple, le jeu vidéo qu'il a sur sa DS. Mmh. De quoi souffre votre personnage ?
Des troubles du comportement de tout genre, des troubles du comportement alimentaire, compulsions, et puis surtout il n'est pas très aimé. Sauf que j'ai fait le parti de rendre ça assez drôle ou risible, ce qui n'est pas forcément évident, puisqu'on parle quand même d'un personnage malade, mais c'est ça qui m'intéresse en tout cas. C'est les personnages qui, du coup, parce qu'ils sont malades et parce qu'ils ne le savent pas ou qu'ils ne veulent pas le voir, restent dans cette forme de déni. Et la langue, pour ça, c'est génial, parce que les gens malades parlent beaucoup. Ils aiment bien retourner, répéter les choses. Et donc pour moi c'était aussi un moyen de proposer littérairement un délire sur la langue.
Pourquoi l'avoir dépouillé de son prénom ?
Ça tout simplement parce que je voyais pas pourquoi j'irais lui mettre un prénom, puisque c'est un personnage qui n'arrive pas à trouver de force d'identité, qui n'arrive pas à se conformer à un modèle. Et d'ailleurs je pense que ce sera pareil pour la plupart de mes textes. Je vais pas parler à l'avance, mais voilà, en ce moment je suis en train d'écrire autre chose et le personnage n'a pas non plus de prénom parce que je trouve ça assez réducteur et j'ai tendance à pas trouver ça très intéressant dans un roman que le personnage s'appelle Benoît ou Daniel. Ça me sort complètement en fait de l'espace fictionnel. Je sais pas comment dire autrement.
Est-ce que c'est peut-être aussi une volonté pour vous de vouloir s'identifier ou de faire identifier le lecteur au personnage ?
Non, en vérité, c'est pas une idée qui me plaît beaucoup. Moi, je travaille pas... Pour moi, d'ailleurs, probablement qu'on va en parler ensuite, mais pour moi, la différence entre les formes romanesques et les formes poétiques, c'est justement ce principe d'identification. Et pour moi, lire un roman, ce n'est pas s'identifier au personnage. Pour moi, le roman, c'est une expérience dans un ailleurs, un autre endroit que notre réel. Donc je ne suis pas là pour que les gens se retrouvent dans mon personnage, mais au contraire, je suis là pour que les gens, quand ils lisent ce texte, il se passe autre chose que la vie à laquelle ils sont habitués. Et c'est pour ça que les personnages exubérants, exagérés, qui sont hyperboliques, comme le personnage de Créatine, sont intéressants pour moi, parce qu'on n'en rencontre pas souvent dans la vie, et quand on en rencontre, on en a peur. Et donc l'espace du roman, pour moi, c'est un espace où on peut se permettre de devenir pour un temps quelqu'un qu'on n'est pas dans la vraie vie. Donc je veux pas que les gens s'identifient au personnage. Et ça m'a... C'est pas que ça m'a causé des problèmes, mais ça a causé des incompréhensions aussi. Parce que beaucoup de gens m'ont dit « Ah, je me reconnais dans cet adolescent ». Et c'est vrai, il y a des expériences des fois que j'ai vécues, mais qui sont traitées avec beaucoup de distance. Le but, c'est pas du tout de créer de l'empathie pour moi. Le but, c'est de créer une expérience. Et cette expérience-là, elle n'est pas forcément dans le registre de l'émotion, de l'identification, de la charité affective, quoi.
Alors cette expérience, elle est quand même ponctuée de plusieurs bascules. Ouais. Donc, pour votre personnage principal, la première fois que tout va basculer, c'est lorsqu'il va découvrir son corps. Il découvre alors son désir pour les femmes. Cela devient une véritable obsession pour lui de vouloir même être aimé par les femmes. Mais il en est complètement incapable car il n'a pas à ses yeux la bonne image. Il pense beaucoup les choses à partir de là. Avant, il ne pensait pas, mais maintenant qu'il sait comment fonctionne son corps, oui. Il va vouloir les séduire, mais il n'ose pas le faire lui-même. Il souhaite alors se mettre à faire du sport. Il va commencer à se préparer mentalement. Vous le préparez pendant plusieurs pages. Est-ce que c'est ça aussi la volonté et la clé de tout dans la vie ?
En fait, le personnage dit qu'il a découvert les femmes. C'est évidemment drôle, enfin... Le but, c'est de rigoler quand même avec cette idée-là, mais aussi de montrer que derrière cette idée se cache une incertitude majeure, une misère affective majeure, qui est comblé par une sorte de syllogisme un peu pourri, femme égale sport. Donc je vais me conformer à un modèle parce que je sais très bien que ce modèle ne fonctionne pas. C'est une sorte de déni, c'est comme un membre de la famille qui décède et on ne veut pas le croire. Ça met du temps avant de comprendre que le personnage, que la personne est vraiment morte. Un déni permet de ne pas traiter le vrai problème et c'est génial parce que le déni c'est souvent le moment, par exemple dans la psychiatrie, où on parle le plus. Et donc moi en tant qu'écrivain, puisque c'est la matière verbale qui m'intéresse, mon but c'était de capter ce déni, de l'exagérer à outrance, et de proposer cette expérience-là.
Votre roman explore aussi le regard des autres, l'idée de s'affirmer avec un corps devant le regard des autres, éventuellement, un corps même s'il n'est pas musclé, voire même saillant. Est-ce que vous cherchez aussi à faire une forme de satire de la société qui recherche par tous les moyens le corps parfait ?
Oui, évidemment, il y a la satire de la société, il y a la satire de l'injonction à avoir un corps musclé, mais aussi, c'est pas seulement une satire, dans le sens où, pour moi, c'est quand même assez évident qu'à un moment, il faut qu'il y ait une satire, enfin, qu'il dise un propos, sinon ça sert à rien. Enfin, il faut que ça a au moins intégré une donnée du réel et que ça emporte un jugement à ce propos, sinon... Je ne crois pas en la littérature autotélique, ça j'y crois pas.
Quel regard vous portez sur les réseaux sociaux aujourd'hui ?
Ah, j'ai pas d'avis, je trouve ça très bien, j'ai pas trop d'avis là-dessus.
Il y a ce point de bascule qui est le visionnage de Conan le Barbare avec Arnold Schwarzenegger. Dès lors, votre personnage est omnibulé par cette figure qu'il juge parfaite pour un homme, musclé, fort, ne tremblant pas devant l'adversité. En quoi ce film a été un élément important dans l'écriture de votre roman ?
Alors, le film n'était pas très important parce que j'ai hésité entre plusieurs films, entre plusieurs acteurs, parce qu'il y avait aussi Stallone, mais j'ai pas filé Stallone parce que la veine charnelle, sexuelle, était trop présente chez Stallone. Alors que chez Schwarzenegger, il y a une veine politique plus intéressante puisqu'il a son parcours politique. J'ai pensé aussi à Vladimir Klitschko, qui est quand même un boxeur ukrainien très important. Puis finalement, entre Klitschko et Schwarzenegger, j'ai pris Schwarzenegger parce que l'Amérique, parce que la satire de l'Amérique. Mais je pense pas que ce soit en ça que le roman soit plus intéressant qu'un autre. Par contre, là où c'est intéressant pour moi, c'est que les romans, la littérature, elle fonctionne selon une hiérarchie de sujets nobles et de sujets pas nobles. Et ça existe depuis... Au XVIIe siècle déjà, les formes littéraires étaient établies selon leur degré de noblesse, en quelque sorte. Donc la tragédie, c'est bien, la poésie, ça va, mais le roman, c'est pas bien, par exemple. Et aujourd'hui, je pense que même si le roman s'étend, même s'il y a des romans populaires, il y a tout ça, il y a quand même un préjugé sur ce que doit être un modèle littéraire, j'entends, c'est-à-dire que... Faire un livre sur l'Iliade, c'est super. Faire un livre sur Schwarzenegger, c'est trivial. Et donc c'est aussi une provocation à destination du public littéraire qui est trop habitué à des figures de référence mythologique, classique. J'avais envie aussi de prendre le contre-pied en prenant un personnage épique de la société contemporaine, c'est-à-dire Schwarzenegger, et de prendre un personnage qui est un peu vieux aussi, parce que du coup ça parle aussi aux... Ça parle pas aux jeunes, évidemment pas, parce que ce serait un peu ridicule... de parler des jeunes à la place des jeunes, mais ça parle d'une figure de la société américaine problématique et mythique en même temps, qui est objet de fascination, et j'ai préféré de parler de ça que de parler d'Achille, par exemple. Parce que la mythologie, c'est très à la mode en ce moment, dans la littérature contemporaine. Ben, moi, je trouve ça plus intéressant d'aller prendre des figures triviales, populaires, mal vues, qui n'auraient pas lieu de citer en littérature, en fait.
Qu'est-ce qui vous inspire d'autre que des romans, les héros modernes comme Stallone ou Schwarzenegger ?
En fait, je trouve qu'ils ont un potentiel comique qui est génial. Et moi, j'aime beaucoup la littérature médiévale. Et quand on prend la littérature médiévale, on prend Yvain, Gauvin, les Chevaliers de la Table Ronde, Perceval, c'est des personnages qui aussi sont à la fois épiques, mais prêtent aussi beaucoup à rire. Et je pense que l'origine du roman, le choix de la forme romanesque, elle doit forcément à un moment se poser cette question de l'humour et de la parodie, du comique. Parce que les meilleurs romans que l'Occident a connus, que l'histoire de l'Occident a connus, ce sont toujours des romans qui ont eu une parodie d'un traitement épique. Donc Don Quichotte, mais aussi L'Âne d'Or d'Apulée. Moi, c'est ça mes références.
On sait avec votre roman que votre personnage a une révélation, donc devant ce film. Même si à ce moment du livre, il n'est pas intéressé par quoi que ce soit, est-ce qu'il aurait pu, peut-être, avoir la même réaction en allant au musée en se retrouvant devant des statues grecques. Est-ce que ça aurait pu être pareil ?
Ça aurait pas pu être pareil, parce que justement le but c'est d'entrer en collision avec un idéal classique du monde. C'est-à-dire que les statues grecques du Louvre ou de la Galerie des Offices à Florence, elles sont un idéal harmonieux, donc c'est pas des corps difformes. Alors que ce qui est intéressant avec Schwarzenegger, c'est de dépasser le corps, d'aller au-delà du corps. Et d'ailleurs, ce qui est fou avec le culturisme, c'est que, par exemple, il y a un documentaire de Géraldine Jonkers qui est très très intéressant là-dessus, sur une femme qui fait du bodybuilding en Belgique. On a fait une soirée ensemble et on voit que le corps de cette femme, il n'est plus sexualisé à un moment, parce qu'il a dépassé le moment où le corps féminin est sexuel, parce qu'il est musclé avant tout. Parce que la performance est tellement saillante qu'elle dépasse le potentiel d'attirance ou de sexualité du corps. Et ça m'intéressait aussi. Comment un corps devient épique par lui-même, ou veut devenir épique, c'est-à-dire qu'il dépasse sa réalité triviale de corps. Et je pense que ça, c'est nouveau. C'est bien différent de l'harmonie du corps qu'on trouve dans les tableaux du Caravage, du Titien.
On parlait d'ironie, d'humour, pour comprendre la société. Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de castigat rinendo mores, corriger les mœurs par le rire, avec l'ironie d'un roman, plus que dans une tragédie ou une comédie ?
Si, après, moi, mon but, je ne suis pas professeur. C'est-à-dire que quand j'écris ce livre, le but du livre, c'est aussi de proposer une expérience qui n'est pas juste une expérience éthique, morale ou de satire. C'est-à-dire que pour critiquer la société, il y a aussi plus efficace. Il y a des essais, les éditions La Fabrique, ça c'est des essais. Moi, je suis un amuseur. C'est-à-dire que la littérature, c'est la critique de quelque chose, mais par un traitement qui normalement doit faire rire, doit provoquer une émotion du moins, et le fait de certaines manières. Donc le théâtre le fait comme ça, avec la confrontation d'un corps sur scène, le roman le fait en entrant dans la psychologie de quelqu'un. Donc l'idée, c'est de contaminer la psychologie de la personne qui va lire et de la mettre mal à l'aise avec un personnage exubérant et désagréable. Et du coup, je sais très bien que de toute façon, les gens qui lisent ce livre, la plupart du temps, ils ne sont pas concernés par le sujet. Ils sont déjà convaincus que le capitalisme, c'est pas bien, que se muscler, c'est pas forcément bien, que se muscler à outrance, surtout chez les hommes, c'est un problème de virilité, de masculinité pas réglée. Les gens qui me lisent, ils le savent. Ils ne viennent pas pour apprendre des choses, ils le savent déjà. Je ne suis pas leur professeur. Par contre, on peut en parler ensemble pour explorer des dimensions nouvelles. Le tout, c'est surtout que le livre, il y ait avant et après le livre. Ça, j'y crois fort, pour le coup.
Il y a quelque chose de très intéressant sur lequel je vais rebondir quand vous parlez de l'homme qui se dépasse. Lorsque votre personnage découvre la musculation dans les salles de sport, il pense à sa future discipline et il va jusqu'à se dire que la musculation, c'est l'homme qui se met face à lui-même. Est-ce que c'est le seul moment
où l'homme se met face à lui-même? En fait, moi, je dirais même que c'est l'inverse. La musculation, c'est pas du tout le moment où l'homme se met face à lui-même. Il se voit dans un miroir. D'ailleurs, dans Créatine, les scènes de miroir, il y en a tout le temps. Il tapisse les murs de sa chambre de films réfléchissants. Et là, il y a un truc marrant avec la réflexion de la lumière. Enfin, moi, ça me faisait rire de faire ça. Mais en fait, je pense que, justement, nous ne sommes pas qu'une image dans un miroir. Nous ne sommes pas que ce narcissisme-là. Et pour moi, la musculation, quand elle est faite dans ces extrêmes-là pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, c'est n'avoir vu que la moitié du problème. Ce n'est même pas avoir compris qu'il y avait un problème.
Au début de votre roman, votre personnage se décrit comme un personnage qui a un corps comme les autres, c'est-à-dire les autres personnes auxquelles il se compare. Et puis en se musclant, est-ce qu'il n'est pas devenu lui-même aussi un corps comme les autres, de tous ces hommes qui se musclent ?
En fait, c'est le paradoxe de cette question de la masculinité, c'est qu'on cherche à se dépasser, à devenir solitaire, mal alpha et tout, mais en fait, on entre en conformité avec les attentes de l'espace de la salle de sport. Donc en vérité, c'est un instinct grégaire qui amène les hommes de ce type-là à entrer dans les salles de sport. Évidemment, là, je parle que de certains cas précis de musculation exagérée. Je parle pas de la majorité des gens. Je parle de ce que ça signifie dans la société. Parce qu'en vérité, le but, c'est d'uniformiser les corps musclés. Ils sont difformes, mais ils sont quand même tous les mêmes. C'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, on voudrait être singulier, mais en fait, on voudrait être ensemble contre un groupe. Et c'est ça qui m'intéresse dans le truc de la salle de sport.
C'est quand même très bien décrit, je tiens à le dire. Il faudra que nos auditeurs et auditrices découvrent, parce qu'il y a quand même... Enfin, J'ai l'impression de vous lire quand je vous entends, donc c'est chouette. Est-ce que votre personnage, vous dirait qu'il est masculiniste ou c'est un homme seul qui cherche à se dépasser ?
Je pense qu'il ne se pose pas la question. Parce que d'ailleurs, les masculinistes, à part Andrew Tate et deux, trois personnes très précises, on s'affirme pas masculiniste. On dit des choses, on tourne autour du pot par des idées, de la même manière qu'on ne s'affirme pas raciste. On dit par des périphrases longues et puis fastidieuses que peut-être que c'est gênant. Et c'est ça, pour moi, le travail de l'écrivain. C'est-à-dire que l'écrivain travaille le matériau langagier. Le matériau langagier dit des choses plus fortes que juste l'usage simple des mots les uns après les autres. Il connote quelque chose. Et la différence entre un essai politique et un roman, c'est que le roman permet de restituer cette connotation, cet espace, ce malaise, cette contradiction dans les termes. Moi, c'est mon travail. Et donc, mon personnage ne se dit pas masculiniste, mais la langue parle à travers lui, il s'en rend même pas compte. Et moi, j'ai tenté de restituer ça de manière pas forcément fidèle, mais de manière comique, de manière exagérée, pour que ça frappe l'esprit. Et là, en effet, peut-être qu'on peut se dire qu'on corrige les mœurs en riant, parce que, en fait, on fait voir des tics de langage pour pas qu'on les reproduise. Et Molière faisait ça très bien. Maintenant, Molière, il fait ça par le théâtre, par la confrontation, par la mise en scène du ridicule. Peut-être que c'est pas si éloigné, au fond. Après, le truc, c'est que le roman, c'est quand même une expérience souvent seule. On lit un roman seul, c'est du moins comme ça qu'on fait aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que le problème du roman, c'est que on est quand même face, tout le temps, on est seul, face à une autre solitude. Et malheureusement, je crois que les gens qui me lisent, ils sont déjà convaincus. C'est peut-être la limite que je mettrais. Et les gens qui allaient voir Molière au XVIIe siècle, comme c'est souvent des châtelains, comme c'est souvent dans des cours royales, c'est rarement des bourgeois. Bah en fait, ils partagent ces codes de l'honnête homme, et donc quand ils vont voir les précieuses ridicules, ils arrivent en sachant déjà que ça va être ridicule. Donc ils apprennent rien en soi. Ils partagent des valeurs communes. C'est plutôt pour se réunir ensemble quand on lit ce livre-là et se confirmer qu'on a peut-être raison.
Vous avez parlé d'écriture et du choix des mots. Alors je vais y venir justement. L'écriture de votre roman, c'est un peu comme un souffle. Nous, lecteurs, on devient ce deuxième personnage finalement de votre roman, parce que il faut rappeler que dès le début on est devant un homme qui raconte ses souvenirs et qui les repêche. D'ailleurs on le voit de temps en temps hésiter, revenir, nous dire mais j'y reviendrai plus tard, finalement j'y reviens maintenant. Il faut aussi préciser que tout part d'une photo. À chaque fois votre personnage y fait référence. Est-ce que vous pourriez nous la décrire, cette photo qui est la source de votre roman? Est-ce qu'elle existe peut-être?
La photo n'existe pas, parce que justement ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un personnage qui veut parler d'une réalité mais qui n'existe pas. Donc il va exagérer, il va mentir, il va accaparer l'espace de parole, parce que c'est ce que font les gens qui doutent et qui sont dans le déni, et il va agresser la personne qui l'écoute. Et en fait, moi j'ai écrit ce livre en imaginant une soirée dans un bar à 3h du matin, un type complètement ivre, qui a besoin de parler, et qui n'a pas envie de payer un psy, donc il va vite prendre quelqu'un au bar et l'accaparer, lui expliquer tout dans tous les détails. Mais les détails, ils sont pas cohérents parce qu'il a pas toute sa tête. Et quand on est seul, on peut jamais parler de soi. On n'y arrive jamais. Mais pourtant, ça ne nous empêche pas d'essayer tout le temps. Et d'ailleurs, je suis pas sûr, par exemple, que les séances de psychologie, la plupart des gens vont voir des psys pendant 5, 10 ans. Ils ne résolvent pas les problèmes. Ça m'intéresse.
Il faudrait que ce soit forcément un dialogue plutôt qu'un monologue.
Oui. Moi, je pense qu'il faut que ce soit un dialogue. Si, du moins, si on veut guérir les gens, si on veut que les choses aillent mieux, il faut se confronter à une autre vision de la réalité. Sinon, on n'y arrive pas. Maintenant, en tant que romancier, pour moi, évidemment, c'est plus facile et plus intéressant. Je dis pas que l'écriture est facile, je dis juste que c'est captivant. Quelqu'un qui parle tout seul, comme ça, qui impose une théorie, on a quand même envie de l'écouter un peu, quoi. On a quand même envie d'aller voir, peut-être, s'il a raison. Je crois que le roman, c'est une bonne place pour ça, pour autoriser temporairement un délire.
Qu'est-ce qu'il a de fascinant, le corps humain musclé ?
Je ne sais pas, mais je pense qu'il est lié à un imaginaire, un idéal du travail. Les gens aiment bien voir les autres travailler. D'ailleurs, l'apanage des salles de sport et tout, ça a quand même été créé pour conjurer le mauvais sort du chômage. Donc ça va aussi dans la logique de l'opposition entre le travail et le chômage, l'oisiveté et le négoce, quoi. Et je pense que les gens, ils aiment bien les corps musclés. Même s'ils les trouvent moches, ils trouvent ça beau parce que ça signifie qu'il s'est conformé à un idéal du travail dans un système capitaliste. C'est tout.
Du coup, est-ce que votre roman fait aussi office de revendication ?
Il revendique par lui-même, parce que ça dépend de comment on se positionne par rapport à cette langue. Si on accepte de changer notre point de vue, bah oui. Si on n'accepte pas... D'ailleurs, mon roman, il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup, qui sont fascinés, qui l'ont bien reçu. Mais il y a aussi des gens qui l'ont haï et détesté. Je pense que ça s'explique sociologiquement. Je pense que ça ne va pas plaire à une certaine frange de la population. Et inversement, ça va être plus susceptible de plaire, par exemple, le public féminin... Je pense c'est captivé. Il y a beaucoup de femmes qui ont bien aimé le livre, qui l'ont trouvé intéressant parce que ce point de vue-là n'avait pas été abordé dans un livre de manière aussi frontale et aussi, aussi complexe, enfin aussi ridicule aussi. Je pense que voilà, ça a peut-être fait écho à des trucs vécus aussi, mais je sais pas. Je peux pas répondre à la place de mes lecteurs et lectrices.
Ah bah, par oui, contre. Ça, c'est une évidence. Quel est votre livre de chevet actuellement ?
Eh bien, en ce moment, je suis en train de lire Les corps conducteurs de Claude Simon. Voilà, c'est très bien.
Créatine de Victor Malzac, une plongée dans l'esprit d'un jeune homme solitaire en quête d'un idéal. C'est un roman qui est toujours disponible dans la collection Scribe des éditions Gallimard, à retrouver en librairie indépendante et à lire, percer des mystères qu'on a entre nous, dans le travail, et peut-être aussi briser un peu notre quête d'idéal, voire peut-être la solitude qui nous entoure. Je trouve que ça pose quand même pas mal de questions là-dessus aussi. Mais ça, après, il faut que le lecteur se fasse son avis. Merci beaucoup, Victor Malzac.
Merci à vous et amusez-vous bien.
L'intégralité de cet entretien est à retrouver en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 sous forme de capsule auditive à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous donne bien sûr rendez-vous, amis lecteurs et lectrices, dès mercredi prochain pour une nouvelle chronique. D'ici là, je vous souhaite le plus important, d'avoir de belles lectures.